Bonjour à tous, on est bien content que vous soyez avec nous aujourd'hui. On espère que vous allez bien malgré la COVID-19 dans ces temps assez difficiles. On commence à être un peu tanné là, de rester en dedans et puis on est content. Je n'ai jamais été aussi content d'aller faire un peu l'épicerie. Mais même là, c'est pas évident, il y a toute une ligne et tout ça. On veut vous donner quelques annonces bien importantes cette semaine. Il y a tout un événement qui a lieu, c'est cet ajout sur notre site Internet d'une zone qui s'appelle Zone Enfant. Ne manquez pas d'aller voir, de faire un tour pour aller voir les ressources qui seront disponibles. D'ailleurs, on vous encourage même pendant les services du dimanche matin, et vous pouvez peut-être comme parent écouter d'un côté le message et peut-être brancher vos enfants sur leurs ressources. Il y a une vidéo, il va même avoir des ressources pour des exercices et tout ça après. Alors, ça va vraiment être intéressant. Allez voir cela. J'espère que vous avez reçu « Grandir ensemble ». C'est dans la zone enfant sur le site de l'Église, églisesentier.com. Aussi, on aimerait vous remercier de rester fidèles avec vos offrandes. C'est très important, particulièrement ces jours-ci. Vous savez que les factures continuent à rentrer. Et puis, on soutient des missionnaires, plusieurs missionnaires, et on veut continuer à le faire. Alors, on vous encourage avec toutes les dépenses que nous avons, le bâtiment, l'électricité, tout ça. Alors, on vous encourage à continuer à rester fidèle avec vos offrandes. Vous savez, il y a plusieurs façons de donner. Vous pouvez donner directement en ligne sur le site de l'Église. Vous pouvez même donner, faire une demande. Il y a un formulaire là pour faire des prélèvements bancaires automatiques. C'est la façon la plus simple de le faire. Il y a aussi, vous pouvez envoyer un chèque par la poste ou même aller au bâtiment de l'Église. Il y a une petite fente dans la porte que vous pouvez entrer votre offrande. Alors, on vous remercie à l'avance pour votre fidélité, votre soutien. C'est votre Église, c'est notre Église ensemble. Alors, on veut continuer à poursuivre la mission que le Seigneur nous a confiée, à faire des disciples conformes à Jésus-Christ. Eh bien, vous savez, cette semaine, on va commencer une nouvelle série. Et si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes chrétien, vous savez, c'est pas évident de suivre Jésus-Christ et marcher avec Jésus et suivre sa parole. C'est pas toujours évident de suivre parfaitement sa volonté. Parfois, le Seigneur Jésus nous demande de faire certaines choses que l'on trouve difficiles. Et c'est vraiment par la grâce de Dieu. Hein. Quelqu'un a dit déjà, est-ce que c'est difficile être chrétien? Et quelqu'un a dit non, c'est impossible. Alors en fait, c'est vraiment par la puissance de Dieu et de son Esprit Saint qu'on peut avancer et continuer de marcher avec le Seigneur. Mais il y a certaines exhortations, certaines choses que le Seigneur veut que l'on fasse, que l'on trouve difficiles. Mais non seulement cela, il y a d'autres choses qui ajoutent aussi parfois la pression ou ce qui rend la vie chrétienne un peu plus un défi. C'est la culture aussi dans laquelle on se trouve. Vous savez, la culture va à l'encontre, n'a pas les mêmes valeurs, la même moralité parfois dans certains domaines. Il y a plusieurs belles choses qui se passent, surtout ici dans le contexte de la COVID. Tellement de gens qui retroussent leurs manches pour aider. Mais quand même, plus à mesure qu'on avance dans un contexte, dans une culture post-chrétienne, de plus en plus que l'écart se fait sentir entre les valeurs de la parole de Dieu, ce qu'on croit aussi, ce qu'on chérit, et ce que la culture va promouvoir. Ça va à l'encontre lorsqu'on commence à s'afficher comme chrétien, et surtout comme un chrétien qui veut vraiment, qui est convaincu, qui a une passion pour Jésus, et qui veut vraiment marcher avec Jésus-Christ. Les gens peuvent se sentir à quelque part menacés autour de nous. Et ça l'ajoute à la pression parfois, au défi de suivre la parole de Dieu, parce que c'est une pression, on sent un mal à l'aise et c'est parfois difficile. Et ça a été le cas à travers l'histoire. Il y a des raisons pour cela. La Bible a des principes moraux, une norme morale qui est différente de celle de la culture. Et s'il y a une chose que la culture va détester, c'est quand les chrétiens commencent à afficher leur foi. Leur amour pour le Seigneur Jésus les incite à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est tout à fait normal, on veut partager cette bonne nouvelle. C'est un peu comme quelqu'un qui découvre le remède au cancer. Il ne veut pas le cacher pour lui. Imaginez si demain matin, quelqu'un trouvait la solution à ce virus que nous connaissons, au COVID-19. Et la personne le garderait pour lui-même. Eh bien, ce qu'on découvre dans la parole de Dieu, c'est que le plus grand virus qui existe, c'est le péché. Et Jésus est la solution dont nous avons besoin pour enlever ce virus, guérir ce virus du péché. Alors, nous avons la victoire en Jésus, cette liberté de l'esclavage du péché, ça se trouve en Jésus-Christ. Alors, parfois, les gens autour de nous qui ne voient pas ça, qui ne comprennent pas ça, qui rencontrent un chrétien qui va s'afficher, qui est passionné à pouvoir répandre cette bonne nouvelle en Jésus-Christ, les gens peuvent se sentir mal à l'aise et commencer à nous juger autour de nous et ils n'aiment pas ça. Et on vit dans une culture aussi que de plus en plus, on veut une laïcité, on veut s'éloigner de tout ce que les gens appellent la religion, on veut que ça soit une affaire privée, les gens ne veulent pas qu'on partage beaucoup notre foi. Et ça dérange les gens. Je me rappelle, moi, une fois, j'étais dans un avion et puis je parlais à celui qui était assis à côté de moi, c'était un étranger, je ne le connaissais pas. Et on parlait de toutes sortes de choses, la pluie, du beau temps, et tout allait bien jusqu'à temps que j'ai commencé à lui parler de ma foi. Et là, j'ai commencé à parler de Jésus, j'ai posé une couple de questions sur s'il croyait, tout ça, et oh boy! Là, j'ai senti que ça commençait à être tendu. Je sentais même un peu d'agressivité, et à quelque part, j'ai senti que si je n'arrêtais pas, là, le ton allait monter. Là, il s'en venait même rouge, là, ça s'en venait pas drôle. Donc, j'ai arrêté, j'ai pas voulu pousser les choses. On veut pas forcer les gens à venir à Jésus-Christ. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, heureusement, au Québec, on a quand même la liberté de la religion. On peut croire. Et puis, on ne nous mettra pas en prison parce qu'on a la foi en Jésus. Mais dans plusieurs pays, c'est le contraire. Hein? On peut te mettre à mort si tu places ta foi en Jésus-Christ. C'est très difficile. J'ai même lu une histoire récemment qu'on a coupé la tête d'un leader chrétien. Et puis, on brûlait les bâtiments d'église, on interdisait aux chrétiens de se réunir ensemble. Donc, c'est vraiment pas évident, là, parfois, de suivre Jésus. Il y a cette pression, donc, où il y a des cultures qui vont même aller jusqu'à persécuter les chrétiens. Et c'était le cas aussi avec les premiers chrétiens. Par exemple, les Romains persécutaient les chrétiens, justement parce qu'ils avaient... ils sentaient une menace avec les chrétiens. Les Romains avaient leur propre roi, leur propre Dieu, d'ailleurs l'empereur. On demandait qu'on adore l'empereur. Alors les chrétiens allaient carrément à l'encontre des valeurs des Romains. Du côté des Juifs, l'établissement juif aussi sentait une perte avec ces chrétiens juifs qui se convertissaient. Et les Juifs chrétiens qui se convertissaient ont commencé à subir beaucoup de pression et de persécution. Et ça, ils ont été rejetés. Les Juifs qui ne croyaient pas en Jésus, qui rejetaient Jésus comme Messie, sentaient que les chrétiens ne respectaient pas leurs croyances. Alors, le message de Jésus allait vraiment à l'encontre des Juifs. En plus, lorsque les Juifs se sont aperçus que des non-Juifs s'ajoutaient à la communauté chrétienne, parce qu'au début, c'était des Juifs qui se convertissaient à Jésus-Christ, mais là, il y a eu des non-Juifs qui se sont ajoutés, qui se sont greffés. Et lorsque les Juifs ont vu cela, là, vraiment, ils n'étaient pas contents. Ça a ajouté simplement de la tension. En plus de la persécution physique, comme la prison, la mort et tout ça, les Juifs qui se convertissaient perdaient tout leur réseau social. Il y avait toute cette question de business, de contact. Ils perdaient tout ça. Ils perdaient donc leur emploi, leur carrière, leurs revenus. Ils n'avaient plus le droit d'aller dans les lieux saints. Ils avaient encore moins le droit d'aller au temple. C'est devenu de plus en plus difficile. Alors, il y avait beaucoup de pression. Comme ça que les premiers chrétiens juifs qui se convertissaient subissaient. C'était vraiment pas évident. Maintenant, peut-être que vous aussi, vous subissez une certaine pression. Même si nous sommes libres au Québec de croire ce qu'on veut croire, on peut quand même sentir un certain mal à l'aise autour de nous. Je connais des chrétiens qui se sont fait mettre dehors, congédiés, parce qu'ils avaient une foi en Jésus. D'autres se trouvent dans une famille, et peut-être que c'est votre cas, où vous êtes le seul à être chrétien dans votre famille. Et c'est difficile, vous avez une certaine pression, vous la vivez. Pas évident, vous voulez éduquer vos enfants dans la foi, et parfois, ça va à l'encontre des valeurs de votre conjoint. C'est vraiment pas évident, là. C'est pas toujours facile. Et la vision du monde est tout à fait différente dans notre culture que celle qu'on nous présente dans les Écritures saintes. Alors, voici ce qu'on veut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série. C'est une série, justement, qui va se trouver dans le livre aux Hébreux. Et le livre aux Hébreux a justement été écrit pour des gens qui vivent de telles situations, qui vivent cette pression d'être croyants en Jésus-Christ. Les gens qui s'adressent cette lettre allaient justement à l'encontre de la vision dominante de la culture de l'époque, comme bien des gens autour de nous, comme vous et moi. Alors, les chrétiens faisaient certaines choses que les gens trouvaient même menaçantes, et les gens ne comprenaient pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre culture. Notre culture se sent menacée quand on leur dit que nous sommes chrétiens, et surtout que lorsqu'on leur dit que notre foi est très importante. Dans notre culture, on peut dire que tout le monde aime Jésus, mais ils n'aiment pas nécessairement les chrétiens, parce qu'ils ont une notion qui n'est pas biblique de Jésus. Ils vont voir Jésus comme le Jésus qui est plein d'amour, plein de tendresse, plein de douceur. Et ils vont enlever tout l'aspect de jugement où Jésus va confronter le péché. Alors, on tend ça dans notre culture. On a juste cet aspect de Jésus qui n'est que bon et jamais il allait juger les gens. Jamais aujourd'hui, si Jésus était ici, il ne confronterait jamais les gens. Et ça, c'est la perspective des gens autour de nous. Alors, les gens autour de nous ont une certaine perspective de Jésus. Jésus est le bon gars, qui est venu nous apprendre comment aimer les gens, comment pardonner. Mais jamais il nous demanderait de faire des sacrifices ou jamais il nous demanderait de peut-être mettre de côté nos rêves. Jamais il ferait ça. Et c'est la perception que les gens ont. Mais c'est pas biblique. Parce que Jésus lui-même va confronter le péché. Et les gens vont s'arrêter à des paroles de Jésus dans ses sermons lorsqu'il dit « ne jugez pas ». Et là, les gens vont s'accrocher à ça. Mais les gens ne lisent pas ce qui s'en vient. Après, ce que Jésus cherchait à faire, c'était d'encadrer le jugement. Et ce qu'il disait, c'est que de ne pas juger, parce que si nous jugeons, nous serons jugés de la même manière, selon la même mesure que nous jugeons les autres. Mais après, ça part de jugement. Ça part d'enlever la paille dans l'œil d'un autre après qu'on ait enlevé notre pourtre. Mais Jésus veut encadrer le jugement. Alors, c'est que les gens n'ont pas une perspective biblique des paroles de Jésus. Ils n'ont qu'un aspect de la personne de Jésus-Christ. Maintenant, évidemment, on n'est pas appelé à être sévère dans nos jugements. Au contraire, les chrétiens sont appelés à être les plus patients et les plus miséricordieux sur la face de la terre. Le message de l'Évangile nous amène à être très compréhensifs, à être patients les uns avec les autres, à pardonner facilement. Nulle part nous sommes appelés à forcer les gens à croire en Jésus-Christ. La Bible dit clairement aussi de ne jamais afficher une attitude arrogante envers les autres. Mais nous sommes toutefois appelés à chercher et à encourager les enfants de Dieu à porter du fruit. Lorsque la culture te regarde et te voit d'une certaine manière, ils vont te voir peut-être d'une manière différente. Ils vont te juger, ils vont peut-être même te mépriser. Et peut-être sous une forme différente, peut-être pas physique, mais ils vont te mettre à l'écart. Et c'est une forme de persécution, ça. Et là, ça peut être difficile, très difficile. À subir ça et à vivre cela. J'ai connu des chrétiens qui me racontaient qu'ils entraient dans une grande cafétéria avec plusieurs employés et ils étaient carrément mis à part. Personne ne voulait manger avec eux. C'est une forme de persécution, ce sentiment de rejet. Et les gens à l'époque de Jésus-Christ subissaient également cette pression-là. C'est ce qui se passait dans le temps du Nouveau Testament, et ça allait même plus loin, parce qu'il y avait aussi la persécution physique, la persécution sociale. Les premiers chrétiens juifs allaient à l'encontre des croyances de l'époque, et ils se faisaient abandonner par la communauté juive, et là, ils avaient peut-être, sous cette pression-là, tendance et cette, cette tentation de peut-être vouloir retourner à leur ancienne vie, retourner au judaïsme et à l'ancien système de sacrifice pour les péchés, peut-être retourner à toute l'hygiène et la diète juive, tous les repas cachers et tout ça. Ils avaient cette pression-là d'abandonner Jésus à cause de la pression et la persécution. Donc, le livre aux Hébreux a été écrit justement pour ça. On pense au sacrificateur, au souverain sacrificateur Ananias, qui faisait vraiment passer les chrétiens des temps difficiles. Il était très dur à l'endroit des chrétiens. Il faisait bannir les chrétiens, les juifs chrétiens, des lieux saints. Ils étaient considérés les chrétiens comme impurs, et ça, c'est ce qu'ils enseignaient. Là. Alors, c'est ce qu'ils enseignaient dans les synagogues, de voir les chrétiens impurs, les rejeter. Ils ne pouvaient plus parler aux prêtres, aux sacrificateurs, et ils ne pouvaient même plus avoir de relations avec d'autres juifs. Ils étaient rejetés, parfois même par des membres de leur propre famille. Et toute cette persécution est due à leur attachement à Jésus comme Messie. Ils sont exclus de presque tout. Alors, ils ressentaient cette pression de suivre Jésus en raison de toutes ces formes de persécution et de rejet. Alors, plusieurs de ces chrétiens, ces premiers chrétiens juifs, avaient une tentation de retourner en arrière, de retourner au judaïsme. C'est la raison pour laquelle le livre aux Hébreux a été écrit. C'est justement pour toutes ces personnes qui trouvent ça difficile de suivre Jésus, d'être un chrétien, et qui se demandent, est-ce que je devrais continuer? Est-ce que je devrais persévérer dans ma foi, dans ma relation avec Dieu? Avant d'ouvrir ce livre, il faut savoir que les gens à qui l'auteur s'adresse étaient des Juifs qui connaissaient bien leur Ancien Testament. En lisant le livre aux Hébreux, vous allez peut-être dire, aïe, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est compliqué. L'auteur prend pour acquis que les gens qui lisaient, les premiers lecteurs qui allaient lire le livre aux Hébreux, connaissaient très bien l'Ancien Testament. Alors, ils connaissaient très bien tous ces enseignements de sacrifice. Je ne suis pas certain si c'est votre livre préféré, le livre au Lévitique, mais en tout cas, le livre aux Hébreux est écrit en prenant pour acquis que les premiers lecteurs connaissaient très bien tout le système de sacrifice, connaissaient bien toutes les règles dans le livre de Lévitique. Alors, on va faire souvent une correspondance. On va souvent citer l'Ancien Testament et on fait souvent référence à l'Ancien Testament dans le livre aux Hébreux. Et c'est ce qui rend la lecture assez difficile. Parce que le livre a une saveur très juive. Mais le thème du livre, par contre, est très simple. Voici le message du livre aux Hébreux. Très simple. Jésus est le meilleur. Pas compliqué, hein? Jésus est le meilleur. Jésus est meilleur que tout. C'est le titre d'ailleurs de cette série. Jésus est plus grand que tout. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, le mot meilleur va se retrouver 19 fois dans le Nouveau Testament. Mais sur les 19 fois qu'on va retrouver le mot meilleur, 13 fois se trouvent justement dans le livre aux Hébreux. Le livre répond à la question, pourquoi venir à Jésus pour avoir son salut? Pourquoi? Pourquoi croire en Jésus? Pourquoi le suivre même dans un contexte où les gens peuvent être hostile au message de l'Évangile? Pourquoi persévérer? Pourquoi suivre Jésus, même si je suis seul dans ma famille à croire? Et c'est difficile d'être le seul croyant dans ma famille. Pourquoi continuer? Pourquoi persévérer à suivre et à marcher avec Jésus? La réponse, Jésus est meilleur que tout. Tout au long du livre aux Hébreux, l'auteur dit, écoutez, bien-aimés, continuez de croire en Jésus. Continuez à suivre Jésus. Jésus-Christ et son œuvre sont supérieurs aux anges, supérieurs à Moïse et supérieurs à tout le système de sacrifice instauré par la loi de Moïse. En d'autres mots, rien, aucune religion ne se compare à Jésus. Rien ne se compare à Jésus. Jésus est le meilleur. C'est intéressant parce qu'on découvre dans la littérature juive que les rabbins interprétaient Ésaïe 52. où ça dit que Jésus sera élevé plus grand. Les rabbins interprètent ça dans le Talmud. Ils disent que lorsque le Messie viendra, il sera plus grand qu'Abraham, plus grand que Moïse, et même plus grand que les anges. Et c'est ce que nous avons ici déjà dans le livre aux Hébreux, Hébreux chapitre 1 et chapitre 2, que Jésus est le plus grand, Jésus est le plus grand et plus grand que les anges. Quand on imagine qu'un seul ange, dans Ésaïe 37, un seul ange a mis à terre l'armée assyrienne. L'armée assyrienne était la plus grande puissance mondiale de l'époque. Les soldats étaient formés, c'était des brutes, étaient violents, c'était des durs, et ils sont allés faire un assaut contre le peuple de Dieu. Et un seul ange a mis à mort plus de 185 000 soldats des élites. Un seul ange! Et la Bible nous dit que Jésus est plus grand que tous les anges. Et extraordinaire! Voyez-vous pourquoi on veut mettre notre foi en Jésus? C'est phénoménal. Alors, Jésus est le meilleur. Jésus est le plus grand. C'est l'excellence même. Il est meilleur que tout. Il est le meilleur suprême. Voici comment l'auteur du livre aux Hébreux nous montre l'excellence de Jésus et sa supériorité et son excellence à travers son livre. Jésus est plus grand que les anges, chapitre 1, chapitre 2. Jésus est plus grand que Moïse, chapitre 3. Jésus est plus grand que le sabbat même, le shalom, le repos de Dieu, chapitre 3 et 4. Jésus est plus grand, est le plus grand sacrificateur, chapitre 4 jusqu'au chapitre 10. Jésus est la plus grande, il a la plus grande position, chapitre 4. Jésus a une plus grande prêtrise, chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Jésus a une plus grande alliance, chapitre 8. Jésus est un plus grand sanctuaire, chapitre 9. Jésus est le plus grand sacrifice. Il est le sacrifice parfait, chapitre 9 et chapitre 10. Une fois que l'on sait ce que l'auteur est en train de faire, là, ça commence à avoir du sens. Même pour nous qui connaissons peut-être un peu moins tout l'arrière-plan juif et l'Ancien Testament. C'est le message que l'auteur est en train de livrer. Là, on sait qu'il parle à des Juifs qui connaissaient l'Ancien Testament et tout le système de sacrifice de l'Ancien Testament. Alors, tout au long de son livre, l'auteur explique pourquoi Jésus est le meilleur. Le message que l'auteur livre tout au long de son livre est le suivant. Jésus est meilleur. Il est meilleur. Il est meilleur, puis arrête pas. Il est meilleur, il est meilleur, il est meilleur. C'est le message du livre aux Hébreux. Vous pouvez comprendre que les Juifs qui lisaient ce livre et qui connaissaient très bien l'Ancien Testament étaient frappés de voir la grandeur et la beauté de Jésus, alors que l'auteur amasse des évidences de la grandeur et de la supériorité de Jésus. Laissez-moi juste vous lire quelques versets. On va juste commencer aujourd'hui, c'est une introduction, et puis la semaine prochaine, Dominique King va continuer. Mais lisons juste les quelques premiers versets. On va s'arrêter juste sur les trois premiers versets rapidement. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Alors, j'espère que vous avez votre Bible avec vous et vous suivez avec moi. Hébreux chapitre 12, voici ce que ça dit. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, chapitre 1, Hébreux chapitre 1, désolé, je suis dans le mauvais passage. Alors, Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par des prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé par l'univers. Il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli, au travers de lui-même, la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. On sent déjà, hein, le ton, le désir de l'auteur de nous montrer la beauté et la grandeur de Jésus. Juste avec ces trois versets, nous avons déjà l'idée principale du livre. Jésus est meilleur que tout, parce qu'il est Dieu. Déjà là, au début, dans l'introduction de son livre, l'auteur va nous donner trois évidences qui montrent la supériorité et l'excellence de Jésus. Déjà dans les trois premiers versets. Jésus est l'héritier, il est le créateur de l'univers et il est le reflet de Dieu. Premièrement, Jésus est l'héritier. Regardez bien ce que ça dit au verset 1. Verset 1 dit, « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par des prophètes, ça c'est l'Ancien Testament, Dieu, dans ses derniers jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. » Voyez, Jésus est l'héritier de toutes choses. Jésus est l'héritier de tout ce qui appartient à Dieu. Tout ce qui existe trouvera son véritable sens que lorsque tout sera placé sous le contrôle de Jésus. Colossiens 16 dit ceci, « C'est en Jésus que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Tout ce qui existe, existe pour Jésus-Christ. On voit dans Éphésiens 1, 10 que le projet bienveillant de Dieu est ceci. De tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel, que ce qui est sur la terre. Maintenant, nous avons ici, dans ce passage, dans Éphésiens 1, une image mathématique. Vous savez, à l'époque de l'Antiquité, nous, quand on additionne des chiffres, on met la somme en bas, le total en bas, mais à l'époque, on mettait en haut la somme totale, et on appelait ça « réunis sous une tête ». Là, vous aviez tous les chiffres enlignés dans une colonne, et en haut, vous avez la somme de tout, vous avez le total. Vous avez la tête. Eh bien, voici l'image que Jésus prend. Le projet bienveillant de Dieu est de réunir tout dans l'univers, tout ce qui a été brisé par le péché, de tout réunir, enligné sous la tête qui est Christ, qui est Jésus-Christ. Tout a été créé pour lui, par lui et pour lui. C'est le projet bienveillant de Dieu. Vous savez, la première fois que Jésus est venu sur terre, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour nous, de façon à ce que, par sa pauvreté, nous puissions devenir riches. Il ne possédait rien, il n'avait même pas un lieu pour reposer sa tête, nous dit Luc 9. On lui a même pris ses vêtements lorsqu'il est mort, il a été enseveli dans un tombeau même qui appartenait à un autre. Cependant, lorsque Jésus reviendra sur terre, il va hériter de toutes choses. Et ce qui est magnifique, ce qui est extraordinaire, nous qui avons cru en lui, nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, il va faire de nous des co-héritiers avec lui. Éphésiens 1, 11 dit, « En lui, nous avons été désignés comme héritier. » Et aussi dans Romains 8, 16 et 17. Alors, pourquoi suivre Jésus? Lorsque nous allons entrer dans le royaume éternel, nous posséderons avec lui tout ce qui lui appartient. L'héritage de Jésus sera également le nôtre. Pourquoi suivre Jésus? C'est parce qu'il est le plus grand, il est le meilleur, il est l'héritier de toutes choses. Jésus est l'héritier de tout ce qui appartient à Dieu et il va partager son héritage avec quiconque place sa confiance et sa foi en lui pour obtenir le pardon de ses péchés et recevoir la vie éternelle. Une autre évidence qui montre la supériorité et l'excellence de Jésus, c'est que Jésus est le créateur de l'univers. C'est ce que dit le verset 2. Jésus, le créateur du monde. Dans Jean, on dit que Jésus est la parole de Dieu. Et Jean 1, 3 dit, « Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, par Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » L'une des plus grandes preuves de la divinité de Jésus-Christ est sa capacité de créer. Il est le créateur. Parce que la capacité de créer, nous révèle la parole de Dieu, n'appartient qu'à Dieu, Dieu seul. Et le fait que Jésus crée indique qu'il est Dieu. Il a créé tout ce qui est matériel et tout ce qui est spirituel. C'est lui qui a créé les anges. Jésus a créé sans aucun effort tout l'univers et tout ce qui le soutient. Voici une autre évidence qui montre la supériorité et l'excellence de Jésus. C'est qu'il est le reflet de Dieu. Regardez comment la version de français courant le rend. Hébreux 1, 3. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Vous savez, cette fameuse gloire que l'on voit dans l'Ancien Testament, la Shekinah. Eh bien, le Fils, Jésus, reflète la Shekinah, la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Dans tout l'univers, aucun n'est la représentation exacte de Dieu sinon Jésus-Christ. Jésus est la représentation exacte du Père. Jésus est Dieu. Vous allez vous déjà demander à quoi ressemblait Dieu? Comment il est? Si Dieu était devant nous, là, à quoi il ressemblerait? Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il ferait? Comment réagirait-il? Et c'est très facile de savoir ce que Dieu est, ce qu'il ferait, ce qu'il pense. On n'a qu'à regarder à Jésus. Jésus n'est pas une caricature de Dieu. Il n'est pas une ressemblance proche de Dieu. Il n'est pas quelqu'un qui nous aide à comprendre un peu mieux Dieu. Non, il est la représentation exacte de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, on a toutes sortes de télévisions. C'est phénoménal, la technologie, jusqu'où ça avance. On a eu la HD, on a eu 2K, on a eu le 4K, et dernièrement, il n'y a pas très longtemps, Samsung est arrivé avec une nouvelle télévision, 98 pouces, QLED 8K. Hey, savez-vous comment est-ce qu'on vendait ça? Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vendent aujourd'hui, là, mais Samsung. 100 000 $. C'est fou, quand j'ai vu le prix, j'ai dit non, il a dû avoir une erreur. Ben non, c'est 100 000 $. Eh bien, hey, c'est phénoménal. 33 millions de pixels. La compagnie dit, se vante, que c'est la plus grande clarté et la meilleure résolution. Soit 4 fois la résolution de 4K. C'est phénoménal. Maintenant, imaginez maintenant, ça c'est pour le 8K, imaginez maintenant qu'on invente une 800K. Mais vous savez quoi? Ça n'arriverait même pas à la cheville de la représentation de Jésus envers son Père. Il est la représentation exacte de son Père, de Dieu. Vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu? On regarde à Jésus. Jésus est Dieu en chair et en os. Il est la représentation exacte de Dieu. Maintenant, c'est ce que signifie le reflet. Le mot signifie dans l'original émettre de la lumière. Jésus est la manifestation de Dieu. Il est l'expression de Dieu pour nous. Personne ne peut voir Dieu. Il est le seul reflet de Dieu qui puisse nous atteindre. C'est vraiment par Jésus. Et de même que le soleil va illuminer et réchauffe la terre, Jésus est la glorieuse lumière de Dieu qui brille dans nos cœurs. C'est d'ailleurs Jésus qui a dit un jour, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie », nous dit Jean 8, 12. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et il peut transmettre cette lumière dans nos vies afin que nous, en retour, on puisse refléter la gloire de Dieu à travers notre vie. Le monde dans lequel on se trouve est sombre. On y trouve les ténèbres de l'injustice, de l'échec, des privations, de la séparation, de la maladie, de la mort et bien d'autres choses. C'est dans ce monde ténébreux que Dieu a envoyé sa lumière glorieuse. Sans le Fils de Dieu, tout est ténèbres. Mais avec Jésus dans sa vie, on reçoit la lumière de Dieu. 2 Corinthiens 4:6 dit ceci. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Pourquoi placer sa foi en Jésus? Pourquoi continuer de persévérer en Jésus? Pourquoi marcher avec Jésus? Parce que Jésus est meilleur que tout. Seigneur notre Dieu, nous voulons tellement te remercier d'avoir envoyé ton Fils, la lumière du monde, dans ce monde ténébreux, afin qu'on puisse découvrir la lumière. Merci Jésus à tous ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus. Et Seigneur, s'il y a des gens qui nous écoutent présentement, on te prie, et qui n'ont pas placé leur foi en Jésus, on te prie que dès l'instant, dès à présent, ils puissent faire ce pas de foi et ouvrir leur cœur à Jésus pour recevoir la lumière de la vie. Oui, Seigneur Jésus, touche leur cœur. Et pour nous qui sommes tes enfants, nous te prions que tu puisses nous donner cette grâce de pouvoir marcher à l'honneur de notre cher Sauveur pour sa gloire. Parce qu'on sait que c'est ton dessein, c'est ta volonté de réunir toutes choses en Jésus. Nous voulons te plaire, nous voulons marcher avec toi, nous voulons t'honorer, Seigneur. Alors veuille bénir cette série de messages dans le livre aux Hébreux. Édifie-nous, inspire-nous, encourage-nous, Seigneur, et que l'on puisse découvrir de plus en plus la beauté, la splendeur de Jésus-Christ. En son nom, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.